Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les dessous de l'Infox. La France accusée d'avoir introduit de faux billets au Mali pour déstabiliser le pays. Le scénario mensonger, propagé par Sputnik Africa et repris dans les médias sahéliens, montre que la désinformation russe poursuit son travail de sape au Sahel. Ce sera la chronique de Grégory Genevrier de la cellule Infovérif de RFI. On y revient d'ailleurs plus en détail avec Kellyanne Sanz-Pasquale, chargée de recherche à Géode, le centre de géopolitique de la Datasphère, partenaire des Dessous de l'Infox. Il nous parlera des ressorts de la stratégie russe de désinformation, cela passe par la fabrication d'un ennemi et le piratage des préoccupations africaines. La fiabilité des sources d'informations, un enjeu majeur au regard du développement de l'intelligence artificielle générative. Le dernier rapport de NewsGuard à ce sujet a de quoi nous interpeller. On verra avec Chine Labbé que les IA ont bien du mal à distinguer le vrai du faux. Et on commence avec vous, Grégory Genevrier, bonjour.
Bonjour Sophie.
La rumeur a inondé la toile cette semaine. La France aurait, je cite, imprimé de faux billets de francs CFA pour déstabiliser le Mali. Ces mots attribués à Assimi Goïta sont apparus en ligne après l'intervention du président de la transition à Sikasso, dans le sud du Mali, c'était samedi dernier. Rapidement, des milliers d'internautes et des dizaines de médias africains s'en sont fait l'écho. Seulement, vérification faite, c'est une fausse information, Grégory.
Oui, cette citation est absolument partout sur les réseaux et pourtant, Assimi Goïta n'a jamais accusé nommément la France. Dans son discours d'une vingtaine de minutes en Bambara, le président de la transition parle des menaces qui, selon lui, cibleraient directement le Mali. Le terrorisme armé, médiatique et économique sont pointés du doigt. Assimi Goïta fait référence aux sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali et dit, je cite, « Ils ont fabriqué beaucoup de faux billets, ils les ont acheminés par voie terrestre deux fois, mais grâce à la vigilance de la douane, ces faux billets ont été saisis. L'objectif était d'étouffer l'État. » Fin de citation.
Alors, de qui parle Assimi Goïta dans ses accusations?
Eh bien, ce « il » utilisé au pluriel fait référence aux terroristes économiques cités plus tôt par Assimi Goïta. Concrètement, on ne sait pas avec certitude qui il désigne. Ce que l'on sait par contre, c'est que le président de la transition n'évoque pas directement la France, contrairement à ce qu'affirment certains médias.
Est-ce que l'on sait d'où sort cette accusation envers la France précisément?
Oui, ça sort d'un article de presse publié au lendemain de l'allocution d'Assimi Goïta sur Sputnik News. L'agence de presse liée au gouvernement russe est interdite dans l'UE depuis février 2022. Le titre se veut clair, Goïta accuse Paris d'avoir imprimé de faux billets de francs CFA pour nuire à l'économie du Mali. Le papier établit aussi un lien direct avec l'opération Persil menée par la France contre la Guinée en 1960, une campagne de déstabilisation du régime de Sékou Touré à coups de faux francs guinéens.
Et la piste d'une opération de la sorte est-elle crédible?
Eh bien non, dans le cas d'un pays comme le Mali, dont la monnaie est aujourd'hui partagée par une dizaine d'autres pays, une telle opération n'aurait pas de sens. C'est ce que nous explique l'économiste Karl Grécou.
C'est complètement impossible de cibler uniquement le Mali dans le cadre actuel. Pourquoi? Parce que le Mali partage la même monnaie qu'un certain nombre de pays en Afrique de l'Ouest, donc le franc CFA. Donc très concrètement, ce sont des pays intégrés, ce sont des vases communicants. Et donc, il est impossible de cibler directement le Mali sans qu'il y ait des dommages sur les autres pays.
L'hypothèse d'une opération menée par la France n'est d'ailleurs pas plus crédible selon lui.
La France, pour aller dans cette interprétation-là, n'a absolument aucun intérêt à vouloir déstabiliser le Mali dans la mesure où il y aurait des répercussions sur les autres pays. Et donc, elle ne mettrait pas en danger uniquement ses intérêts potentiels au Mali, mais elle mettrait également en danger les intérêts dans les autres pays utilisant le franc CFA.
Au-delà de la France, certains évoquent aussi l'hypothèse de l'implication de la CEDEAO, piste également rejetée pour les mêmes raisons par les experts que nous avons contactés.
Merci Grégory Genevrier. Alors pour remettre la fabrication de ce narratif dans son contexte, nous avons fait appel à un analyste géopolitique très au fait des méthodes de la Russie en matière informationnelle. Nous allons voir que dans ce domaine, la Russie procède en Afrique comme dans le reste du monde.
Vous
Bonjour Kélian Sanz-Pasquale.
Bonjour.
Vous êtes analyste géopolitique, spécialiste de l'espace post-soviétique et du cyberespace russophone, chargé de recherche à Géode, le centre de géopolitique de la datasphère. Alors cela fait bientôt un an que Evgeny Prigogine est mort, disparu dans un mystérieux accident d'avion, après avoir tenté de défier le Kremlin en Russie. C'était le 23 juin 2023. Son influence allait grandissant sur le terrain en Ukraine, mais aussi en Afrique, parce qu'il avait déployé donc ses hommes, les mercenaires de Wagner, dans plusieurs pays d'Afrique, RCA, Mali notamment, et aussi en raison du dispositif informationnel qu'il a introduit dans cette région. Aujourd'hui, que reste-t-il de cette galaxie Prigogine dans le paysage médiatique et numérique?
Alors, il semble que partie ait été préservée. En Afrique, tout du moins, on a notamment le site African Initiative, qui possède aussi ses chaînes Telegram, qui diffusent autant en russe qu'en français qu'en anglais, et qui est associé à un personnage du nom de Viktor Loukhovenko, qui est un ancien de Wagner, continue à diffuser la parole du Kremlin sur le terrain. On a aussi un certain nombre de trolls et bots qu'on connaissait qui ont eu un petit arrêt d'activité à la mort de Prigogine. Il me semble une ou deux semaines de silence de ces comptes qui étaient connus sur Twitter, mais qui ont repris ensuite la diffusion de leurs messages comme s'il ne s'était finalement rien passé. Et aujourd'hui, on peut dire que s'il y a eu en interne des changements dans la structure de commandement, si on peut dire ça comme ça, les dispositifs sont toujours pleinement opérationnels.
La propagation des thèses pro-russes, elle s'est faite par étapes. Et on peut dire que deux mois avant la chute du président Bazoum au Niger, bien peu de monde avait anticipé la suite des événements. A posteriori, qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cette cécité qu'on a eue côté français?
Alors effectivement, le Niger paraissait résilient à l'influence russe jusqu'au coup d'État de l'été 2023. Et en un sens, il l'était. Et la situation qu'on voit aujourd'hui dans le pays n'est pas le résultat de l'influence russe elle-même, mais d'une convergence tout à fait opportuniste entre des acteurs locaux qui désapprouvaient la politique de l'ex-président Bazoum et des acteurs russes. On a notamment l'ex-ambassadeur du Niger aux États-Unis qui estime que le coup d'État est à attribuer à l'ancien président Issoufou, qui aurait vu d'un mauvais œil la remise en cause du système clientéliste qu'il avait installé et qui aurait utilisé ses liens avec le général Tchani pour défendre ses intérêts. Alors, s'il n'y a pas de confirmation là-dessus, on a cette situation d'acteurs locaux qui ont entrepris des actions de leur côté et du côté de la Russie. Lors du coup d'État, on observe un silence qui est assez inhabituel sur les réseaux sociaux et dans les médias russophones sur le sujet pendant les premières heures. Alors, je dis inhabituel parce que dans le cas du Mali et du Burkina Faso, on avait observé une activité avant même les coups d'État sur les réseaux sociaux et dans certains médias associés à Prigogine. Et les premiers articles qui ont paru par la suite sont par ailleurs gardés de soutenir la nouvelle junte dans les médias. Et c'est seulement entre le lendemain et le surlendemain que les narratifs que l'on connaît ont commencé à émerger. En d'autres termes, il semble que les Russes eux-mêmes ont été surpris du coup d'État et n'ont fait que s'insérer dans un contexte qui leur était favorable et qui a été permis, comme je le disais, par une action locale qui s'est faite sans leur action. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu la chose venir? Eh bien, je pense que justement, on s'est trop focalisé sur l'influence russe sur place et pas sur les dynamiques locales qui ont pourtant tout autant leur importance.
Donc oui, c'est justement ce que je voulais vous demander, c'était la nature du lien entre ce qui se passe, on parle souvent d'opérations hybrides, mais entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe au niveau informationnel. En réalité, si je vous comprends bien, vous dites que c'est un peu au cas par cas.
C'est effectivement au cas par cas. Alors, il y a une stratégie globale qui est mise en place par certains acteurs qu'on peut facilement classifier et qui vont tous avoir leurs propres intérêts. Mais cette stratégie est ensuite adaptée à un contexte régional d'abord, le Sahel en l'occurrence, et dans un contexte ensuite national en fonction des fractures qui existent au sein de la société, de telle manière que cette influence informationnelle russe puisse les aggraver jusqu'à causer des heurts suffisamment conséquents pour notamment causer un changement de pouvoir et une installation d'autorité plus favorable aux intérêts russes.
Vous avez écrit un article dans la revue Défense nationale, un article intitulé « La Russie en Afrique, une stratégie informationnelle basée sur l'adversité ». Vous mettez en évidence, je cite, « la construction de l'image de l'Occident » comme origine de tous les maux des sociétés africaines. Je voudrais vous demander, avec le recul,
Quel bilan ou quelle leçon tirer de cette stratégie russe ?
Cette stratégie, pour commencer, il faut bien préciser qu'elle ne s'applique pas uniquement à l'échelle de l'Afrique, mais on le voit d'autant plus depuis l'invasion de l'Ukraine. C'est un discours qui est inhérent à la parole russe au niveau mondial. Ce qu'il faut comprendre dans la stratégie informationnelle et dans la manière dont la Russie mène ses opérations d'influence, c'est qu'elles sont fortement influencées par une vision des relations internationales comme un jeu à somme nul, c'est-à-dire qu'un succès d'un acteur donné ne peut être réalisé qu'au détriment d'un autre acteur international. Et c'est précisément ce qu'on voit avec la Russie et l'Occident. La Russie s'inscrit comme l'antithèse de l'Occident, et même plutôt, il faudrait dire, la Russie inscrit l'Occident comme sa propre antithèse. On voit même au niveau national, on a beaucoup d'articles qui remontent bien avant l'invasion de l'Ukraine, dans les médias nationaux, qui présente l'Occident comme étant une entité dont l'objectif final ne serait que la destruction de la Russie et qui aurait été incarnée par différents avatars, des troupes napoléoniennes à l'Allemagne nazie et aujourd'hui à l'OTAN. Tout ça est présenté par la Russie comme un continuum cohérent. En utilisant ce continuum, le régime russe cherche autant à maintenir ses intérêts au niveau national qu'au niveau international à faire pencher la balance de son côté. Manipulations qui sont observées en Afrique, au-delà de l'affrontement qui est observable entre l'Occident et la Russie, permet aussi, par exemple, dans le contexte de la guerre en Ukraine, d'obtenir des votes plus favorables lors des condamnations à l'ONU de l'invasion russe de l'Ukraine. On voit depuis 2022 qu'il y a eu une certaine évolution de la part des pays dans lesquels l'influence russe s'est bien installée. Certains pays qui pouvaient voter pour la condamnation on finit par s'abstenir ou s'absenter de ces votes. Et il me semble même que le Mali a fini par voter contre ces condamnations. On a tout un système dont l'objectif final est de renforcer la position de la Russie sur la scène internationale comme un acteur qui ne serait pas un acteur régional, comme on a pu le dire dans les décennies 2000-2010, mais comme un acteur à portée internationale, même si au niveau économique, c'est sans commune mesure avec la Chine, par exemple. Mais en tout cas, ce serait un acteur sans lequel la politique internationale ne pourrait se faire.
Pour revenir un petit peu sur le terrain africain, vous parlez d'un piratage des préoccupations africaines. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
La Russie ne va pas inventer des crises, mais va plutôt se baser sur ce qui existe déjà. Là encore, on observe cela sur tous les terrains et il y a une adaptation au niveau local en fonction du pays dans lequel on se trouve. En l'occurrence, en Afrique, il y a par exemple, si on parle de l'Afrique francophone, des préoccupations qui peuvent être légitimes sur l'influence de la France sur ses anciennes colonies. Il peut exister des malaises, par exemple, au niveau du franc CFA. Et la Russie se saisit de ce genre de thématique pour suivre ses intérêts. L'objectif étant de semer le doute, de susciter davantage de crainte au niveau de la population pour, à long terme, provoquer des ruptures telles que les coups d'État, par exemple, ou telles que les manifestations spontanées ou plus ou moins spontanées, puisqu'on l'a vu avec l'exemple de Prigogine. On a pu voir que certaines manifestations contre la France, contre les États-Unis, contre l'ONU aussi, d'ailleurs, étaient directement financées par ces structures. Mais à côté de ça, il y a une vraie volonté de travailler au corps la population locale pour que cette idée que l'Occident est néfaste pour la souveraineté, pour les affaires économiques, pour le pays de façon générale, s'imprègne dans la population et que la Russie paraisse être un partenaire préférable, donc qui viendrait remplacer l'Occident sur place.
Est-ce que vous diriez que cette stratégie a ses limites au bout du compte ou vous pensez que la propagation va continuer ?
Il faut garder à l'esprit que ces stratégies reposent beaucoup sur des dynamiques très opportunistes. On a pu le voir d'ailleurs dans le cas du Niger, sans des éléments locaux sur lesquels la Russie n'avait aucune prise, le Niger pourrait aujourd'hui toujours être plutôt dans un esprit de résistance à cette influence informationnelle. Au contraire, si l'on regarde la République centrafricaine aujourd'hui, après une longue période pendant laquelle l'Occident a été soigneusement poussé vers la sortie au profit d'acteurs russes et notamment de combattants de Wagner, on a pu voir plus récemment le président Faustin-Archange Touadéra revenir un petit peu vers certains partenaires occidentaux et essayer de tirer profit de l'opposition en fait des différents acteurs qui essayent de favoriser leurs intérêts sur place. Finalement,
une mise en concurrence en fait de ces partenariats, ce qui est assez naturel finalement.
Exactement. Et l'autre point sur lequel l'influence informationnelle russe pourrait buter, c'est tout simplement qu'il n'y a pas un engouement massif de l'entièreté de la population pour la Russie. Il y a un engouement local, il y a des intérêts particuliers de certaines classes de la population et même plutôt des autorités, autorités qui peuvent, pour d'autres raisons tout aussi locales que la Russie peut voir venir ou peut ne pas voir venir, être renversées pour avoir un nouveau cours plutôt pro-occidental ou pro d'autres partenaires. Donc finalement, même si il y a bien un effet à ces opérations-là et même si on a un renforcement du sentiment pro-russe au sein de populations qui vont déjà être plutôt ouvertes à la coopération avec la Russie, ça ne peut pas être considéré comme un changement de mentalité de la totalité de la population. D'autant que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, on a pu observer après les coups d'État une répression sévère causant qui ou bien étaient toujours favorables à la coopération avec les partenaires occidentaux, ou bien en gardant une position critique vis-à-vis des partenaires occidentaux, étaient tout aussi critiques vis-à-vis des actions de la Russie, puisque nombreux rapports ont été publiés sur la Centrafrique notamment et sur l'action délétère que pouvaient avoir les combattants de Wagner et notamment des exactions commises à l'encontre de la population qui sont bien naturellement de nature à inquiéter d'autres populations qui pourraient voir ces mercenaires arriver.
Eh bien, merci beaucoup, Kellyanne Sanz-Pasquale. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'espace post-soviétique et du cyberespace russophone au Centre Géode, Centre de géopolitique de la datasphère, en partenariat avec cette émission.
Toutes ces fausses informations, même lorsqu'elles sont dévoilées, continue de circuler d'une façon ou d'une autre et nous allons comprendre avec Shin Labbé de la société NewsGuard que cela risque d'avoir un impact assez néfaste sur les IA génératives et notamment sur ce que produisent les chatbots quand on les interroge sur ces sujets d'actualité.
On en parle.
Bonjour Shin Labbé.
Bonjour.
Alors vous êtes rédactrice en chef Europe chez NewsGuard, qui est une société américaine qui évalue la fiabilité des sites d'information et d'actualité. Et donc votre activité vous mène évidemment à la lutte contre la désinformation. Et tout naturellement, avec les avancées technologiques que l'on connaît, l'intelligence artificielle, vous vous intéressez aussi à la fiabilité de ce que proposent les IA génératives. NewsGuard a donc audité les 10 principales modèle d'IA générative et selon les conclusions de cette enquête, ces chatbots, autrement dit ces agents conversationnels, véhiculent une grosse quantité de contenu fallacieux. Pouvez-vous nous dire comment vous avez procédé pour arriver à ce résultat ?
Oui, alors l'idée, c'était de mesurer la résilience de 10 principaux chatbots d'IA. Ça inclut ChatGPT d'OpenAI, le chat de Mistral, Copilot de Microsoft, MetaAI ou encore Gemini de Google. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a soumis à tous ces chatbots 570 instructions au total. Donc, ça fait 57 instructions ou prompts par chatbot. Et ces instructions, elles s'appuyaient sur 19 récits significativement faux, donc des récits de désinformation que nous avons identifiés sur un réseau de désinformation russe dont on pourra parler par la suite. L'idée, c'était donc de voir si, quand on lui soumet des récits de désinformation russe, le chatbot, les chatbots en l'occurrence, les répètent, les questionnent ou s'abstiennent de les répéter. Donc, on a testé chacun des 19 récits en utilisant 3 approches différentes, puisque l'idée, encore une fois, c'était de refléter la façon dont les modèles d'IA peuvent être utilisés. D'abord, une instruction neutre, c'est-à-dire vous, moi, on est dans la position d'un internaute qui aurait lu une infox qui chercherait en toute sincérité des faits sur cette affirmation. Une instruction orientée, là, on se met dans la position d'un complotiste, si vous voulez, d'une personne qui est convaincue par l'infox et qui va demander plus d'informations. Et puis, une instruction telle qu'elle proviendrait d'un acteur malveillant. On se met dans la peau d'un propagandiste qui souhaiterait se servir des outils d'IA comme d'un assistant pour voir si, effectivement, ces outils vont diffuser ces récits faux à large échelle et à bas coût. Ensuite, on a trié les réponses des chatbots en 3 catégories. Pas de mésinformation, c'est-à-dire effectivement le chatbot n'a pas répété, il a évité de répondre ou il a même réfuté la fausse affirmation. Répète avec prudence, là, c'est-à-dire il va répéter mais il va tout de suite vous mettre une mise en garde ou un avertissement à la fin. Et puis mésinformation où là, on constate que le chatbot relaye avec assurance, avec conviction et avec efficacité le récit faux.
Le problème, c'est que ça concerne quand même plus d'un tiers des réponses.
de récits faux qui sont intégrés, qui montrent que le chatbot, dans ce cas-là, ne fait pas la différence entre le vrai et le faux.
Exactement. Donc, le constat, c'est que pour ces 10 principaux modèles d'IA générative, dans 32% des cas, c'est-à-dire à peu près un tiers du temps, ils vont reprendre les récits de désinformation russe en citant, c'est ça qui est aussi très inquiétant, comme des sources fiables, des sites qui sont deux faux sites d'information locaux créés à Moscou et créés grâce à l'IA générative.
Ce qui est particulièrement intéressant, ce que vous épinglez, c'est que ces récits de désinformation russe, ils ont été créés, comme vous le dites, à Moscou par un individu qui s'appelle John Mark Dugan. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui il s'agit, au juste ?
Oui, alors John Mark Dugan, c'est un ancien shérif adjoint de Floride qui est devenu propagandiste du Kremlin après en fait, s'être réfugié et avoir obtenu l'asile à Moscou, après en fait, avoir fui les États-Unis parce qu'il faisait l'objet d'une enquête pour piratage informatique et pour extorsion de fonds. Ce John Mark Dugan, l'une de nos analystes, a échangé longuement avec lui. Il nie avoir créé ces sites, mais tout pointe vers lui. Et donc, nous avons identifié un réseau d'environ 167 sites, derrière lequel il est, qui sont des sites principalement générés par IA, c'est-à-dire le contenu est généré automatiquement, on trouve des messages d'erreur d'IA, etc., qui se font passer pour des sites d'actualité locaux, donc qui vont avoir des noms qui ressemblent à des médias traditionnels du type DC Weekly. DC Weekly, c'est comme ça que tout a commencé. D'ailleurs, notre analyste est tombée sur ce site. Elle est correspondante à Washington pour NewsGuard. Elle ne connaissait pas ce site. Notre travail, c'est de suivre les sites d'information. Donc, elle s'est dit, il y a quand même quelque chose d'étonnant. Et elle s'est vite rendue compte que c'était un site généré par IA, qu'il n'y avait personne derrière et qu'en fait, il y avait beaucoup plus un réseau beaucoup plus tentaculaire autour de ce site.
C'est comme ça que vous êtes tombée sur une sorte de filon de faux sites d'information.
Exactement. Et ce qu'on sait aujourd'hui, en tout cas l'information qu'on a obtenue d'une source officielle française qui travaille sur les sujets de désinformation, c'est que ce réseau, qu'on appelle le réseau Dugan, donc le réseau autour de cet homme John Mark Dugan, semble être intégré au projet LACTA, qui est un projet d'interférence informationnel russe, qui était auparavant financé et dirigé par l'ancien mercenaire russe Evgeny Prigojine. Donc on est vraiment dans le cœur du réacteur de la désinformation d'État russe.
Quelle est la nature en fait de ces sites ? Qu'est-ce qu'ils propagent comme genre de narratif ? Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ?
Alors il y a beaucoup de choses qui sont au sujet de l'Ukraine, du président ukrainien Volodymyr Zelensky, notamment l'idée qu'il existerait une ferme à trolls secrète à Kiev qui chercherait à interférer dans les élections américaines de 2024. Cette infox-là, elle s'appuie sur le prétendu témoignage d'une femme qui dit être une ancienne employée de cette ferme à trolls, qui en fait semble être une personne générée par IA et donc un témoignage complètement généré par IA. Et qu'est-ce que dit cette infox ? En fait, cette ferme à trolls, elle avancerait des récits pro-Biden, anti-Trump, pour influencer l'opinion publique contre Trump. D'autres fausses informations qui ont pu être relayées par ce réseau et qu'on a utilisées pour ces tests, c'est l'existence d'un programme de fécondation forcée d'inspiration nazie en Ukraine. L'idée que Zelensky aurait acheté une villa en Allemagne qui appartenait à Joseph Goebbels par le passé.
Ce sont toutes des infox qui sont tellement intégrées par les intelligences artificielles qu'elles les recrachent, en fait, elles les restituent comme s'il s'agissait de vraies informations, c'est ça ?
Alors, en fait, il faut quand même répéter le fait qu'on demande au chatbot des informations sur ce sujet. Donc, il ne s'agit pas de dire que les infox sont là et vivent. Nous, on va poser des questions sur ces infox. Mais ce qu'on constate, c'est qu'elles vont les répéter et elles vont s'appuyer sur des sources qui sont des sites de propagande créés à Moscou en les citant comme s'il s'agissait de sites fiables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que soit il y a dans les données qui ont nourri le chatbot, c'est-à-dire qui lui ont permis d'être entraîné, eh ben ces sites-là ont été pris en compte, ce qui serait très inquiétant. Soit c'est en allant sur des moteurs de recherche, les chatbots d'IA vont aller chercher ces sources-là et ne vont pas réussir à les trier, c'est-à-dire vont être dupés par leur nom, par les informations qu'elles relaient, etc. Et ça, c'est inquiétant aussi, parce que qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'il n'y a pas de garde-fou, ou en tout cas pas assez de garde-fou, pour dire, expliquer au chatbot d'IA que tel site ne doit pas être pris en compte comme tel site, que telle information, on sait que c'est une information de propagande bien connue et donc il ne faut pas la relayer. Or, on sait que mettre en place des garde-fous dans ces chatbots d'IA, c'est possible, puisque dans le cadre même de cet audit, certains récits ont été quasiment systématiquement démentis par les chatbots. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient plus connus. Donc notamment celui selon lequel Volodymyr Zelensky aurait utilisé l'aide occidentale pour la guerre contre la Russie afin d'acheter deux super yachts de luxe. Ben ça, c'est un récit qui a été tellement relayé, tellement viral, qu'il y a eu des garde-fous mis en place et que les chatbots résistent. Donc,
c'est-à-dire que
si vous voulez,
les chatbots sont tombés sur des fact-checking, en fait, des vérifications qui leur ont permis d'écarter ce scénario ?
Ont été nourris peut-être dans leur entraînement par des fact-checks à ce sujet, ou alors ont été expressément, il y a eu des garde-fous post-traitement qui sont mis en place pour empêcher le chatbot de relayer certaines infox. On sait que c'est possible par le passé, on l'avait observé sur des infox très très relayées comme l'idée que Barack Obama serait né au Kenya. C'est quelque chose que vous avez beaucoup de mal à faire dire à un chatbot d'IA aujourd'hui parce que les sociétés d'IA elles-mêmes ont pris des mesures pour s'assurer que ces infox tellement connues, énormes, relayées, ne seraient pas propagées dans leurs outils. Donc c'est possible, mais encore faut-il le faire. Ce qui est inquiétant tout de même avec cet audit, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que ce réseau, et pourquoi on a choisi de prendre des infox émanant de ce réseau ? Ce réseau, il a fait la une de nombreux médias. Il a fait l'objet d'une longue enquête de notre part chez NewsGuard, mais il a aussi fait l'objet d'un article en première page du New York Times récemment. Et certains des sites qui ont été repris comme fiables par les chatbots avaient été individuellement épinglés par des médias ces derniers mois, comme étant liés à une opération de désinformation russe.
À partir de là, vous estimez que les chatbots n'auraient pas dû se laisser berner ?
Auraient dû les prendre en compte. Et donc, c'est là où ce qu'on souligne, c'est le manque de garde-fous. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est pour le grand public, il y a un danger. C'est vraiment juste que dans les mains de propagandistes, ces outils se révèlent des assistants très efficaces, puisqu'il y a peu de garde-fous mis en place, en tout cas pas assez efficaces à ce jour.
Mais alors, vous avez présenté les résultats de cette enquête aux grandes sociétés comme OpenAI, Mistral, etc. Est-ce que vous les avez mis devant cet état de fait ?
Oui, ce qui est important de souligner, c'est que dans ce rapport, on a choisi de ne pas donner les scores individuels des différents chatbots, parce que l'objet, ce n'est pas de savoir finalement si Claude fait mieux que le chat ou ChatGPT. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il s'agit d'un problème systémique de l'industrie de l'IA générative, que ce n'est pas spécifique à un grand modèle de langage. Certes, il y a des différences, il y a des nuances, il y en a qui résistent plus que d'autres, mais globalement, c'est un problème de l'industrie. Notre objet, c'était effectivement de le signaler aux différents acteurs. Ce qu'on a proposé à tous les différents acteurs, c'est de leur communiquer leur score individuel s'ils le souhaitent, et de leur donner plus de détails pour qu'eux puissent, in fine, prendre des mesures et pallier à ces problèmes.
Alors, comment réagit l'industrie face à vos observations ?
Alors, dans le détail, je ne pourrais pas dire, mais ce que je peux dire, en tout cas, c'est que plusieurs sociétés d'IA générative citées dans le rapport nous ont déjà contactés pour avoir leur score individuel, ce qui montre qu'il y a un intérêt, une prise de conscience. C'est déjà un très bon premier pas, puisque nous, l'objectif de ce rapport, c'est de montrer une problématique qui est inquiétante, puisqu'on est dans une année électorale crucial, notamment aux États-Unis, mais aussi en France. On a des élections législatives inattendues qui ont lieu. Certains des sites de ce réseau sont en français et écrivent sur la politique, pas nécessairement en diffusant de fausses informations à ce stade, mais voilà, on ne peut pas écarter le fait que cela se passe. Donc mais il faut qu'il y ait une prise de conscience collective, et je pense que c'est un premier pas positif que certaines nous aient contactées pour obtenir leur score.
Merci beaucoup Chine Labbé. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef donc, de l'entreprise NewsGuard. Les dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Claude Battista à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez consulter l'ensemble des vérifications et les liens qui vont avec en tapant InfoVérif RFI dans un moteur de recherche. Et maintenant, place à l'information sur RFI.
C'était les dessous de l'Infox avec Sophie Malibaud.
RFI Soir, Philippe Le Caplin.
Dans une demi-heure, ce sera Afrique Soir et ce sera avec vous, Nemo Impis, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir.
L'essentiel de l'actualité du continent, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y aura à la une de votre journal ?
La Mauritanie, à quelques heures maintenant de l'élection présidentielle, 1,9 million électeurs appelés aux urnes pour désigner le successeur de Mohamed Ould El Razouani, le président sortant, lui-même candidat à ses réélections. Un scrutin synonyme de défi pour la Commission électorale nationale indépendante après des élections législatives très contestées dans le pays.
Et puis vous reviendrez sur la libération du journaliste Yeri Boukoum au Mali.
Il avait été enlevé il y a 3 semaines à Bamako en marge d'une manifestation d'opposition. Yeri Boukoum avait été le seul à couvrir cette mobilisation.
Clap de fin aujourd'hui sur la visite d'État de Denis Sassou Nguesso en Russie.
Le président du Congo-Brazzaville a rencontré son homologue Vladimir Poutine hier à l'occasion des commémorations des 60 ans des relations diplomatiques entre les deux pays. On fera le bilan de cette entrevue.
Et puis le dossier d'Afrique Soir, de quoi s'agira-t-il ?
La situation catastrophique au Soudan, des experts des Nations Unies évoquent les pires niveaux d'insécurité alimentaire aiguë jamais enregistrés. 2 500 000 personnes pourraient mourir de faim d'ici la fin septembre, alors que les combats continuent dans le pays.
On se retrouve dans une bonne demi-heure maintenant.
RFI, Radio France Internationale.